Alors, je vous invite à prendre avec moi votre Bible dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous allons voir presque tout ce chapitre. Permettez-moi de lire à partir de verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, à partir de verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui a-t-il de distinct? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, les condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités et rendus ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les valeurs du monde, le rebut de tout, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas toujours peur, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes droits en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec prière ou avec amour, et dans un esprit de douceur. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants que nous passons dans ta parole, que tu touches notre cœur, Seigneur, et que tu sois exalté à travers ce qui est à nous. En ton nom, nous prions. Amen. Vous savez qu'en ce moment, on parle, entre autres choses, aux infos, de ce qui se passe surtout en Afrique avec cette maladie qui s'est répandue, l'Ebola, n'est-ce pas? On parle de cela, on parlait d'épidémie, à un moment donné, on commençait à craigner, ça commençait à apparaître ici en Europe, aux États-Unis, plusieurs personnes, et bon, pour le moment, ça semble un peu se calmer, n'est-ce pas? On dit qu'on a un peu le contrôle, mais cette maladie très dangereuse qui se transmet, on craint cela. Mais je regardais parce qu'il y a un pourcentage de gens qui attrapent cette maladie qui meurent. Si on constate assez tôt, on peut donner des médicaments et puis certaines vies, mais quand même un taux assez élevé de gens qui attrapent cette maladie. Et puis il y a d'autres maladies où on attrape et c'est pas si grave. Vous attrapez une rhume, une grippe, quelque chose comme ça, en général, les gens ne meurent pas de la grippe, à moins que ce soit d'autres grippes comme la grippe aviaire et autres. Il y a un rhume, autre, ce n'est pas très grave. Mais aussi, cette semaine, je réfléchissais, je regardais une statistique. parce qu'il y a une chose qui a, si on attrape, si on mange, ben, tous ceux qui l'ont mangé sont morts. C'est quelque chose de mortel. Hein? Je lisais cela, je me suis dit, c'est quand même phénoménal, mortalité de 100%. Hein? Et en fait, c'est le pain. Tous ceux qui ont mangé du pain sont morts. Ou mourront. N'est-ce pas? Tous ceux dans toute l'histoire qui n'ont jamais mangé du pain sont morts. N'est-ce pas? Bah, c'est quelque chose de très grave. Donc, il faut faire quelque chose contre le pain. Non, non, non. Je plaisante. Vous comprenez bien. Mais il y a des choses qui nous affectent. Il y a des maladies. Okay? Certaines maladies plus graves que d'autres. Manger du pain, c'est d'ailleurs une bonne chose. Je pense que les Français le savent. Manger autre chose, c'est bien. Attraper certaines maladies, bah, ça peut être plus ou moins grave. Okay? Mais Paul, dans ces versets, va viser quelque chose qui est encore plus grave. Et c'est plus grave parce que cela nous touche jusqu'au plus profond de nous. Et malheureusement, c'est quelque chose auquel nous sommes tous susceptibles. Personne ne peut échapper à ceci. Et Paul a déjà parlé de ceci dans son épître. Nous ne sommes qu'au quatrième chapitre, et pourtant Paul en a déjà parlé, mais il va y revenir, parce que c'est quelque chose de tellement important, c'est quelque chose qui fait des dégâts, qui est tellement mauvais, qu'il est obligé d'y revenir. C'était un problème chez les Corinthiens, ce n'est pas quelque chose que Paul pouvait laisser passer, non. Il fallait qu'il en parle, il fallait que les Corinthiens s'en occupent. Et pareil pour nous aussi. Et en fait, ce dont il va parler dans ces versets, ici au chapitre 4, c'est l'orgueil. C'est quelque chose qui nous affecte tous. Et si vous dites, l'orgueil ne m'affecte pas, vous commencez déjà à tomber dans l'orgueil. Parce que nul de nous ne peut s'échapper. Si nous revenons au verset 6, nous voyons que Paul, il explique aux Corinthiens que oui, il a fait une application de ces choses à sa propre personne. Et Paul, ici, n'est pas en train de dire « faites comme je dis, non pas comme je fais ». Souvent, on entend cela, souvent les politiques disent pas mal de choses, mais leur vie n'est pas conforme à ce qu'ils disent. Mais Paul, lui, il dit « je vous parle de ces choses, mais je les fais moi-même. » Paul ne s'exemptait pas. Paul ne s'est pas dit, je suis dans une catégorie à part. Ces choses ne s'appliquent pas à moi. Il dit, c'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Et malheureusement, notre tendance, c'est de vouloir appliquer l'idéalité. Appliquer certaines choses à d'autres. De dire, ceci est pour quelqu'un d'autre. Ah tiens, je pense à une personne, il a vraiment besoin, cette personne a vraiment besoin de telle ou telle vérité. Cette personne a vraiment besoin d'être repris dans ce domaine. Moi, je vois où ça peut s'appliquer pour telle ou telle personne. Et en faisant cela, nous tombons dans l'orgueil, parce que nous passons à côté de la vérité que nous avons besoin de ces vérités. Nous avons besoin d'être repris. Qui ici peut se dire parfait? Personne. Et à cause de cela, nous avons tous besoin d'être repris, surtout dans ce domaine, de l'orgueil. Parce que nous faisons tous face à cela. Et même si aujourd'hui, nous arrivons à surmonter cela par la grâce de Dieu, et qu'aujourd'hui, nous ne tombons pas dans l'orgueil, demain, il y aura de nouvelles tentations. Demain, nous allons faire face à des circonstances et à des personnes qui vont nous tenter de tomber dans l'orgueil, qui vont essayer de nous faire croire que nous sommes meilleurs que ce que nous sommes. Et ce n'est pas parce que nous avons surmonté aujourd'hui nous avons la certitude que nous allons surmonter demain. Et au verset 6, Paul dit que j'ai fait de ces choses une application. Ce que l'Éternel nous dit, c'est que j'ai fait et je continue de faire une application. Paul ne s'est pas dit dans le passé, je l'ai fait une fois, c'est bon. Maintenant, je peux pas faire autre chose, je ne reviens plus sur ces questions. Non, non, non. Il dit, là, je continue d'y travailler. Et il dit, à la fin de verset 6, j'écris ces choses afin que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il parle de parti pris ici, de se ranger avec un tel contre un tel. De dire, voilà, j'ai raison, l'autre a tort, ce que moi je pense égale la vérité. Moi, je mets ma volonté, ce que moi je pense, en avant. Je me dresse contre quelqu'un d'autre que je pense avoir tort. Et pour lister de l'orgueil. Et je vous enseigne parce qu'il y a cette tentation de tomber dans ce piège, de croire que nous avons raison, et on ne se remet pas en question, et on ne permet pas à Dieu de nous montrer que peut-être qu'on a tort. Puis verset 7, il dit, réfléchissez un peu. L'orgueil ne vient et subsiste dans notre vie parce que nous ne réfléchissons pas. Il dit, réfléchissons un peu. Qui est-ce qui se distingue? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent les uns des autres? Est-ce le hasard? Est-ce la chance? Absolument pas. Est-ce que c'est parce que je me suis fait moi-même? Est-ce que c'est parce que j'ai exercé tous mes efforts? Non. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait que nous bénéficions de tant de choses? Dis, qu'as-tu que tu n'aies reçu? En tant que chrétien, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu. La vie, déjà, nous en avons parlé ce matin en première heure. La vie vient de Dieu. Chaque personne qui naît, naît parce que Dieu l'a béni. Et si tel est le cas, je ne peux pas dire, je me suis fait moi-même. Je suis là parce que moi, je l'ai voulu. Je suis là à cause de telle ou telle raison. Non, je dois dire humblement, je suis là parce que Dieu l'a permis. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le travail. Si j'ai un travail, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si j'ai une famille, c'est parce que Dieu l'a voulu. S'il y a cette église dans laquelle nous sommes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et nous ne pouvons pas croire ou penser que nous sommes meilleurs que les autres parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et je suis convaincue que ici, ce ne sont pas des vérités extraordinaires qui vous bouleversent en vous disant, on ne voit que j'entends ça, je ne le savais pas. Non, ce sont des choses que nous connaissons et pourquoi nous avons besoin des rappels. Je suis convaincue que ce n'est pas la première fois que Paul ici expliquait ces choses aux Corinthiens. Il les avait déjà fait. Il avait déjà expliqué que toute chose venait de la part de Dieu. Et pourtant, il est obligé d'y revenir parce que les chrétiens apparemment avaient oublié, étaient tombés dans l'orgueil. Et il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout mon argent, ma maison, mon travail, tout ce que j'ai, appartient à Dieu et vient de la part de Dieu. Et il dit, la conclusion logique à la fin de verset 7, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Le monde va agir comme ceci. Le monde va dire, je me suis fait moi-même, j'ai obtenu telle ou telle chose, à cause de telle ou telle circonstance, un heureux coup du sort, je suis arrivé là où je suis. Ça, c'est une réflexion sur le monde. Et le chrétien, va-t-il réfléchir comme le monde? Va-t-il ressembler au monde? Absolument pas. Comme chapitre 12, Paul va expliquer qu'il faut être transformé par le renouvellement de votre intelligence pour ne pas être conforme au monde. Et pour Paul, c'était une évidence que le chrétien ne peut pas du tout se glorifier de quoi que ce soit dans sa vie. Au lieu de l'orgueil, qu'est-ce qui doit caractériser le chrétien? Au lieu de se mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut mettre Dieu en avant. Il faut dire, merci Seigneur, si j'ai quoi que ce soit dans ma vie, si je réussis dans quelque domaine que ce soit, c'est grâce à Dieu. Et je peux dire que je continue d'apprendre ceci. Par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont élevé selon les principes bibliques. J'ai eu une bonne éducation chrétienne. Je suis allé à l'école biblique. Dieu m'aide à chaque pas. Et pourtant, si je ne fais pas attention, je peux dire, ouais, quand même, je suis assez formidable. Quand même, regardez, je n'ai que 28 ans et regardez tout ce que j'ai fait. Et je peux regarder toutes ces choses et dire, ouais, ah, regardez. Mais non. Ce que moi, je dois continuellement faire, c'est de me rappeler, et surtout laisser Dieu me rappeler, non. Je ne suis pas quelque chose. Robert n'est pas quelque chose. Non, c'est Dieu qui permet cela. Et les chrétiens de Corinthe étaient tombés dans l'orgueil. Ils croyaient que tous les dons qu'ils avaient reçus de la part de Dieu, ces dons spirituels, quels qu'ils soient, ils croyaient qu'ils étaient mieux que les autres. Et Paul dit, non, vous avez tort. Dans un sens, il n'emploie pas ces termes, mais on le ressent dans ce passage. Il dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes coupables. Parce que vous êtes dans l'orgueil, alors que vous devriez être dans l'humilité. Et aujourd'hui, il est possible que nous soyons dans l'orgueil. Nul de nous n'est à l'abri. Et il se peut qu'aujourd'hui, nous soyons coupables de cet orgueil. Alors, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et puis demander pardon à Dieu. Il dit au verset 7, aucune raison de se glorifier. Tout vient de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Du coup, aucun sujet de gloire personnelle. Et puis, à partir du verset 8, Paul va aller un peu dans le sens des Corinthiens. Ce qu'il dit, il essaie de se conformer aux réflexions des Corinthiens, parce qu'il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Il dit, ça c'est ce que vous croyez. Vous pensez avoir réussi. Vous pensez faire toutes ces choses sans l'aide de personne. Et il dit, ce n'est pas la réalité. Non, si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que Dieu l'a permis. Et en contrepartie, verset 9, Paul va parler de la réalité. Il dit, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, les derniers, les hommes, les condamnés à mort en quelque sorte. Et dans les versets qui suivent, il va expliquer qu'ils ont suivi beaucoup, lui, Barnabas, les autres apôtres, ils ont suivi tout. Contrairement à l'orgueil des Corinthiens, où eux, ils croyaient tout avoir, ils croyaient que ces dons étaient des dus pour eux, Paul dit, nous, les apôtres qui avaient des sujets de se glorifier, les apôtres qui avaient vu Dieu, Paul qui était instruit même par Dieu, il avait sujet de se glorifier. Il pouvait dire, regardez-moi, mais il ne l'a pas fait. Non, il dit, nous restons dans l'humilité. Et en fait, c'est Dieu qui nous garde dans l'humilité, comme il va l'expliquer dans sa deuxième épître aux Corinthiens. À travers une affliction, Dieu allait le garder dans l'humilité. Et il dit, au lieu de s'enfler, au lieu de se croire mieux que les autres, non, il faut se laisser humilier par Dieu, et oui, le monde va croire que c'est illogique. Le monde ne comprendra pas cela. Il va parler d'être livré en spectacle. Il va parler au verset 10 d'être fou. Il va parler d'être faible. Il va parler d'être méprisé. Et aux yeux du monde, et aux yeux des chrétiens qui ne sont pas proches avec Dieu, l'humiliation semble comme une mauvaise chose. L'humiliation, cette humilité, semble comme quelque chose à éviter à tout prix. Le mépris, la faiblesse, ne sont pas des qualités que le monde cherche. Le monde va essayer de les éviter à tout prix, n'est-ce pas? Et pourtant, Paul dit, aux yeux du monde et aux yeux des chrétiens qui ne sont pas proches avec Dieu, ils vont dire que c'est illogique. C'est pourquoi Paul dit non. C'est là où Dieu veut que nous soyons. Même si cela semble illogique aux yeux de ces saints, c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui le veut. Et c'est pour cela, au verset 11 et 12, il va dire, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, nous persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les allures du monde, le rebut de tout, de la poubelle, littéralement, jusqu'à maintenant. Et en lisant cela, on se dit, mais c'est la condition la moins enviable au monde. Qui, dans sa tête, s'il réfléchit bien, aspirait à cela. Qui, si quelqu'un réfléchit vraiment, est-ce qu'il aspirait en ces versets? D'être totalement humilié, d'être maltraité, avoir soif, être dans le besoin total, dépouillé de tout, comme on voit ici. Qui aspirait à cela? Et on va dire, mais personne. Personne. À quoi aspirons-nous? Une vie simple. Une vie où tous nos besoins sont comblés. Où nous avons assez. Un peu en plus, ce serait pas mal non plus. Où nous ne souffrons pas, où tout va bien. Et Paul le dit, ici, nous sommes dans le besoin le plus total. Nous sommes dépouillés de tout. Et pourtant, c'est pas là. Pourtant, nous restons dans l'humilité. Et notre situation est enviable à vous, chrétiens de Corinthe. Il dit, vous croyez réussir, vous croyez être au-dessus, et Paul dit, non. Nous qui semblons être le plus bas, en fait, c'est nous qui sommes le plus bas. C'est notre position qui est enviable, et non pas la vôtre, Corinthien. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une optique totalement transformée par la grâce de Dieu. Maintenant, comprenons ce que Paul dit. Il ne recherchait pas ce dont il parle au verset 11 jusqu'à 13. Ce n'est pas qu'il cherchait à chaque instant de se dépouiller de tout, de toujours être dans le besoin le plus total. Non, c'était ce que Dieu avait permis à ce moment-là. Donc il ne s'agit pas de toujours se dépouiller, toujours vivre dans le besoin total. Mais si Dieu permettait cela dans notre vie, comment le prendrions-nous? Quelle serait notre réaction? Imaginez-vous si demain vous perdez tout. Mettez-vous à la place de Dieu. Dans l'espace de quelques jours, il perd littéralement tout, sauf sa femme. Tout est parti. Et imaginons-nous dans cette situation. quelle serait notre réaction? Notre réaction serait-elle, mais je ne mérite pas cela. Dieu, j'ai tant travaillé pour toi. Dieu, j'ai toutes ces choses et maintenant tu me les enlèves. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne mérite pas cela. Non, en réalité, nous méritions pire. Et ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons ce que nous avons. Et du coup, ce n'est pas pour dire il faut rechercher ce dont Paul parle ici, c'est-à-dire être dans le besoin le plus total, se dépouiller de tout. Mais si Dieu devait permettre un extrême comme cela, il faudrait rester dans l'humilité en disant merci Seigneur, tu permets ceci. Je ne suis pas mieux que les autres. Tout ce que j'avais, de toutes les façons, t'appartenait et t'appartient toujours. Et si tu choisis de reprendre, j'en serai en ce sens content. Et d'avoir la réaction de Job qui disait, l'Éternel est venu, l'Éternel a ôté, je m'en veux à Dieu. Non, 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 non. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est son droit, il est souverain. Et s'il choisit de donner, gloire à Dieu. Amen. S'il choisit de reprendre, aussi dur que cela puisse être de dire, merci Seigneur. Dieu, tu es grand. Et c'est uniquement lorsque nous nous laissons conduire par Dieu que nous pouvons être dans cette optique. Et dans les versets 11, 12 et 13, Paul explique aux Corinthiens qu'il était prêt à tout accepter. Et l'orgueil va accepter certaines choses. L'orgueil va accepter juste un certain point. Mais au-delà de cela, l'orgueil va dire non, je n'en peux plus, je ne mérite pas cela, je suis au-dessus de cela. Ça peut arriver aux autres, mais non pas à moi. Ça, c'est une réaction de l'orgueil. Mais Paul dit, nous, il parle de lui-même, d'Apollos, il va parler en quelques versets de Timothée, il va dire, nous avons appris que l'humilité, selon Dieu, permet de tout accepter. Et c'est là au verset 14, pour éviter que les Corinthiens prennent mal ce qu'il était en train d'expliquer, il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que je vous décris ces choses. Parce que les chrétiens de Corinth, en lisant plutôt, en entendant ces choses, vous auriez pu avoir honte en disant, c'est vrai, on a mal agi, regardez l'exemple de Paul, et nous de notre côté, on n'est pas du tout à la hauteur, on a honte, on a mal agi et tout. Mais ce n'était pas le but de Paul. Peut-être qu'ils avaient honte, et ils avaient raison d'avoir honte. Ils avaient mal agi. Ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais Paul dit, ça ce n'est pas le but ultime. Non, je vous écris non pas pour vous faire honte, mais pour vous avertir. Pour vous avertir comme les enfants bien-aimés. C'est comme un enfant qui voit son enfant courir vers la rue. Qu'est-ce que le parent va faire? Est-ce que le parent va dire, bah, tant pis pour lui, arrivera, qu'arrivera. Bah, il apprendra. Un parent qui voit son enfant courir vers la rue où il y a les voitures qui passent, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, de manière instinctive, je ne veux pas essayer ça, son instinct sera d'appeler son enfant et de dire, mais arrête-toi! Il voit son enfant courir vers le désastre et un parent qui aime son enfant fera-t-il rien? Non, au contraire, il va avertir. Et Paul voyait les Corinthiens courir vers le désastre avec cet orgueil qui faisait ravage dans l'église de Corinthe. Et il a dit, je ne serai pas un bon parent si je ne vous avertissais pas. Il dit, je cherche à vous avertir comme les enfants. Il va expliquer dans le verset 15 que c'est lui qui avait annoncé l'évangile en premier. D'autres étaient venus par la suite, ont enseigné, certains ont bien enseigné, gloire à Dieu, d'autres ont mal enseigné, malheureusement. Mais peu importe qui enseignait, c'est lui qui leur annonçait l'évangile. Et c'est à travers sa prédication que beaucoup dans l'Église corporelle se sont convertis. Et il dit, parce que maintenant vous appartenez à Dieu, parce que vous êtes chrétiens, parce que nous sommes frères et sœurs dans la foi, mon devoir c'est d'investir, parce que je vous vois courir vers l'un des autres. Ça va mal. Et oui, peut-être que vous avez honte. Peut-être que ça va être dur, ce que je dis, mais c'est pour votre bien. C'est pour que vous changiez, vous vous retourniez. Un parent qui appelle son enfant, ce n'est pas pour que l'enfant continue de faire ce qu'il fait, qu'il court dans la rue. Non, c'est pour que l'enfant s'arrête, se retourne et qu'il revienne. Et c'est le désir de Paul ici. Et c'est pour cela qu'au verset 16, Paul va dire, je vous en conjure, c'est un des mots les plus forts qu'il aurait pu employer ici. Mais pas simplement, ce serait bien si vous avez le temps, réfléchissez un peu, ce serait pas mal. Si vous en avez envie, si vous avez le temps, si cela ne vous gêne pas trop. Non, 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 je vous en conjure, je vous supplie. C'est la chose la plus importante, c'est comme si Paul est en train de dire cela. Oubliez toute autre chose. Et réfléchissez à ceci. Soyez des imitateurs. Et là-dessus, on peut se dire, mais ça cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que Paul est en train de parler de l'humilité. Et il reproche aux Corinthiens d'être dans leur orgueil. Mais là, il est en train de les appeler à être des imitateurs, mais Paul ne serait un peu de l'orgueil, hein? Non? Non, mais Paul, tu te prends pour qui? Tu te crois au-dessus des autres? Tu appelles d'autres à te suivre? Non, mais Paul, soyons un peu humbles quand même. Et en fait, si Paul peut dire « soyez mes imitateurs », c'est parce que que, comme il va expliquer dans d'autres passages, il était lui-même imitateur de Jésus-Christ. Non pas que Paul se voyait parfait, arrivé. Non, l'Épître aux Philippiens l'explique bien. Je ne suis pas encore arrivé, dit Paul. Je cours, je continue. Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours. Mais parce que je cours vers Jésus-Christ, je vais encourager tous mes frères et sœurs en Christ de faire la même. Et comme moi, je reste fidèle à Dieu par sa grâce, de cette manière, d'autres peuvent suivre mon exemple. Et c'est vers ce but-là que Paul emmène ce chapitre 4, parce qu'il relève le problème chez les Corinthiens. Ils étaient dans leur orgueil. Et puis, il va revenir à cela au verset 18. Il dit, quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Il existait ce gros problème de l'orgueil dans l'église de Corinthe, à plusieurs niveaux. Certains, ils se croyaient mieux que les autres. Ici, verset 18, et notamment, certains croyaient qu'ils étaient au-dessus de l'apôtre Paul en disant, ouais, il dit qu'il va passer, il dit qu'il va venir, mais il ne viendra pas. Nous sommes là, c'est nous qui avons raison. Ils se mettaient en avant. Et Paul dit, non, 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 c'est changer d'attitude. Et parce que Paul a relevé ce problème de l'orgueil chez les Corinthiens, il ne les laisse pas sans remède. Il dit, soyez mes imitateurs. Et tu l'as entendu, parce qu'il est dans votre tête, parce que moi je suis imitateur de Jésus-Christ. Et de se poser la question, déjà, avons-nous identifié l'orgueil de notre vie? Nous sommes-nous remis devant Dieu, de manière honnête, devant sa parole, en disant, oui, là, dans telle ou telle situation, avec telle ou telle personne, j'étais dans l'orgueil. Ça peut faire mal, nous ne voulons pas admettre cela. Quand nous avons tort, nous ne pouvons pas admettre. Dans notre groupe de jeunes, en grandissant, une des choses que je n'aimais pas, c'était admettre que j'avais tort. Et pendant longtemps, des années, je ne voulais pas admettre dans quoi que ce soit. Je ne voulais pas admettre que j'avais tort, ce n'était jamais ma faute. D'ailleurs, ma mère me contacte encore sur cela. À chaque fois que je dis oui, c'était de ma faute ou autre, elle dit non, c'est pas vrai. Non. Elle dit mais marque-le. C'est grand. On n'aime pas admettre qu'on a tort. Qu'on s'est trompé. Qu'on était en délire. Et pourtant, Dieu exige, et il peut parce qu'il est Dieu, Dieu exige que nous reconnaissions que nous étions orgueilleux lorsque nous étions, de pouvoir identifier ces domaines où nous avons besoin de travailler pour ne plus être orgueilleux. Et pour faire cela, parce que parfois on se trompe, on n'est pas tout à fait honnête avec nous-mêmes, d'avoir d'autres envers lesquels nous pouvons rendre des comptes, avoir d'autres vers lesquels nous pouvons regarder comme modèle, bien sûr, il y a Jésus-Christ, lui qui n'était jamais orgueilleux. Paul se montre en exemple ici, il dit, soyez des imitateurs, n'imitez pas l'orgueil de ceux qui vous entourent, mais imitez-moi. Et puis verset 17, pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Paul savait que les chrétiens de Corinthe avaient besoin de l'aide sur le moment. Ils ne pouvaient pas y aller. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer Timothée. Un homme dans lequel il avait confiance. Un homme qui lui manifestait l'humilité. Du coup, dans notre vie, il faut pouvoir identifier des personnes qui peuvent nous servir d'exemple. Déjà, des exemples dans la Bible, il y en a. On a parlé de Job, quel exemple. Relisez son histoire. Ce matin, nous avons parlé de Jacob, de Rachel, et puis, là, brièvement, est mentionné le nom de Joseph. Et par la suite, on parlera de sa vie. Et l'exemple de Joseph, extraordinaire. Pour toutes ses fautes, l'exemple de David, quand même, un exemple formidable. Paul, Pierre, d'autres, des exemples bibliques, il y en a. Et puis, des exemples dans l'histoire chrétienne, il y a de grands exemples d'humilité, de foi. Les connaissons-nous? Inspirons-nous de ces exemples? Paul voyait le besoin dans l'église de Corinthe d'avoir de bons exemples. Il y avait assez de mauvais exemples autour d'eux. Mais Paul voyait le besoin d'avoir de bons exemples. Et du coup, il dit, vous connaissez ma vie, j'ai passé assez de temps avec vous, maintenant, avec cela, je vais aussi vous envoyer un autre ami qui va pouvoir vous faire des exemples, qui va pouvoir vous aider, qui vous plaît. Et recherchons-nous de bons exemples autour de nous. Recherchons-nous dans notre entourage des chrétiens, des frères, des sœurs, qui vont pouvoir nous encourager à plus d'humilité, à plus de temps avec Dieu. Lisons-nous l'histoire d'hommes et de femmes dans l'histoire chrétienne qui se sont engagés pour Dieu. Parce que Paul voyait l'importance pour les chrétiens de Corinthe. Sinon, ils allaient tomber de nouveau dans leur vie. Sinon, ils allaient suivre tout simplement les mauvais exemples autour d'eux. Et pour nous, il faut avoir des exemples vers lesquels nous pouvons regarder. Sinon, nous aussi, là, on est dans l'orgueil. On va se croire mieux que les autres. On ne sera pas dans l'humilité. Et puis, oui, il y a ce rappel, verset 17. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Paul agissait le même dans toutes les églises. Son enseignement était le même, partout où il allait. Il ne changeait pas d'enseignement selon l'église, pour faire plaisir juste à quelques-uns. Non, il annonçait la vérité de Dieu. et parce qu'il annonçait la vérité de Dieu, verset 19, il dit, si c'est la volonté de Dieu, je serai chez vous, bientôt, et là, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de Dieu. Parce que ceux qui sont dans l'orgueil croient avoir une puissance, mais ils n'en ont pas. Verset 20, le royaume de Dieu consiste en puissance, la puissance de Dieu. Du coup, Paul écrit ces quelques mots aux Corinthiens parce qu'ils avaient un gros problème qu'ils devaient traiter et ça allait être dur. Verset 21, il dit, qu'est-ce que vous préférez? Et la réponse sous-entendue est quand même assez logique. Est-ce que vous préférez la verge ou bien un esprit de douceur? Qui préférez la verge? Sadique peut-être. Quelqu'un qui veut se faire du mal soi-même, mais la plupart des gens, normaux, je voulais dire, préféraient l'esprit de douceur et pas la verge. Et Paul dit, si vous voulez que je vienne avec un esprit de douceur, si vous voulez que ça se passe bien, laissez de côté cet orgueil. Vous savez quoi faire. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Il leur dit, je vais venir près parmi vous. Je serai là. Bientôt, si c'est la volonté de Dieu, et apparemment c'était la volonté de Dieu parce que pour le passé, chez les Corinthiens, et il va dire, vous savez quoi faire. Il y a cet orgueil dont il faut s'occuper. Et cet orgueil, malheureusement, peut infecter, si on peut parler ainsi, tous les domaines de la vie. Et nul de nous est exempt. Et il faut s'examiner. Et laisser Dieu nous examiner par sa parole et s'inspirer d'exemples à la fois autour de nous, et prions à ce qu'il en est, mais aussi dans la Bible, dans l'histoire chrétienne, des hommes, des femmes qui ont manifesté par la grâce de Dieu l'exemple qu'il faut. Prenons-nous le temps de le faire, nous prenons le temps pour mille et une choses. Et nous avons toutes sortes de choses à notre disposition pour occuper notre temps. Est-ce que nous prenons le temps de travailler ce domaine de l'humilité? Ou est-ce que nous passons notre temps à faire toute autre chose et nous négligeons ceci? C'est quelque chose de très très important parce que si nous ne nous occupons pas de l'orgueil, cela va nous détruire. Et les ravages que cela fera vont s'étendre non seulement en nous, mais dans notre famille, dans notre entourage, dans l'Église même. Nous voyons le résultat de l'orgueil chez les Corinthiens au chapitre 5. Nous en parlerons dans les dimanches qui viennent, au point où il y a ce péché si grave que Paul va dire, même chez les inconvertis, il n'y a pas ça. Et à cause de l'orgueil, vous le permettez chez vous, mais c'est incompréhensible. Et tout cela parce que les chrétiens n'ont pas, ne sont pas restés dans l'humilité. Du coup, est-ce que nous nous rendons compte de la gravité? Est-ce que nous identifions les domaines où nous sommes dans l'orgueil de notre vie? Et est-ce que nous nous servons de bons exemples dans notre vie? Et surtout, est-ce que nous demandons l'aide de Dieu? Nous n'y arriverons pas tout seuls. L'orgueil est impossible à surmonter par nous-mêmes. Il faut la grâce de Dieu. Du coup, cette question, c'est comme si Dieu nous l'a posée. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Si Dieu revenait dans cet instant, y aurait-il de l'orgueil ou de l'humilité dans votre cœur? Dès qu'il y ait de l'humilité, et si en ce moment il y a de l'orgueil, Occupons-nous de cela. Demandons à Dieu de nous aider pour enlever cela et qu'il soit glorifié parce que, ensemble, nous prenons cette décision d'enlever ce projet et d'agir avec humilité déjà devant Dieu et les hommes avec les autres. Prie. Oui, Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Nous reconnaissons la vérité et l'autorité de ta parole. Que tu nous aides, Seigneur, nous sommes faibles par nous-mêmes. Que tu puisses éclairer dans notre vie des domaines où nous avons besoin de changer, Seigneur, et par ta puissance, par ta grâce, nous te laissons le faire. Que tu puisses enlever l'orgueil en nous, pour que tu puisses le remplacer par cette humilité selon toi. Et ainsi, Seigneur, que tu nous rends agréable à toi, capable de toute bonne œuvre, pour que ainsi nous puissions avancer et te glorifier dans chaque moment de nos vies. Que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans le ciel. En ton nom, nous prions.
Amen. Amen.